Bienvenue dans Inspiration au féminin, le podcast qui met en lumière les femmes inspirantes d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que celles qui se battent pour faire bouger les choses.
Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi fascinant qu'essentiel, l'évolution des droits des femmes. De la première revendication jusqu'au combat actuel, comment les femmes ont-elles gagné leur place dans une société qui leur refusait tant? Et que reste-t-il à accomplir? Ce voyage dans le temps nous fera découvrir des pionnières et des héroïnes de tous horizons. Alors, installez-vous bien et laissez-vous inspirer par leurs histoires.
Céline
et Aelia
vous invitent à imaginer un monde où les femmes n'ont pas le droit d'étudier, de voter ou de travailler librement. Un monde qui semble lointain, mais qui est pourtant notre passé commun. Ce combat pour l'égalité continue aujourd'hui, car même si des progrès ont été réalisés, beaucoup de choses restent encore à accomplir. Prêt à explorer ces différentes époques ?
Dans cet épisode, nous retracerons la vie de Simone Veil, une femme exceptionnelle qui a marqué l'histoire par son combat pour les droits des femmes. Après, nous irons à la rencontre de Sarah Schlitz, une figure politique belge engagée pour une société plus juste et inclusive. Reconnue pour ses actions en faveur des droits humains et de l'égalité des genres, elle a marqué les esprits par ses initiatives contre les violences faites aux femmes et son combat pour une meilleure représentation des femmes au quotidien.
Finalement, nous aborderons deux sujets cruciaux, l'accès à l'avortement aux États-Unis et la baisse de l'âge du consentement en Irak. Une plongée dans des enjeux essentiels avec une dose d'inspiration pour toutes celles et ceux qui croient en un avenir plus équitable.
Lorsque l'on évoque une femme audacieuse, le nom de Simone Veil revient souvent. Mais connaissez-vous réellement son histoire? Savez-vous quelle lutte elle a menée et les nombreux changements dont elle est à l'origine?
Survivante de la Shoah, Simone Veil a dédié sa vie à défendre l'égalité, la justice et la dignité humaine. En 1979, elle devient la première femme élue à la présidence du Parlement européen, après avoir occupé plusieurs postes ministériels. Elle a joué un rôle central dans l'accès à la contraception, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse et bien d'autres causes cruciales. Son courage et son engagement font d'elle une source d'inspiration pour celles et ceux qui, aujourd'hui encore, se battent pour leurs droits.
Après avoir survécu à l'horreur des camps de concentration, notamment Auschwitz, Simone Veil aurait pu choisir une vie discrète. Mais elle décide de se relever, de reprendre ses études en droit et de devenir avocate. En parallèle, elle construit une famille, donnant naissance à trois garçons, sans jamais perdre de vue ses ambitions. En 1956, elle réussit le concours de la magistrature, un domaine jusqu'alors largement dominé par les hommes.
C'est en 1974 que sa carrière prend un tournant historique. Valérie Giscard d'Estaing, alors président de la République, la nomme ministre de la Santé. Sa mission, faire adopter une loi dépénalisant le recours à l'IVG.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
Mais ça ne se passe pas sans heurts. Trois jours de débats intenses et parfois violents seront nécessaires avant que la loi Veil ne soit votée, marquant un tournant décisif dans la lutte pour les droits des femmes en France. Cet événement place Simone Veil au rang des figures les plus emblématiques de l'histoire française.
Simone Veil aurait pu s'arrêter là, mais en 1979, elle franchit une nouvelle étape en devenant la première femme présidente du Parlement européen. Durant son mandat, elle continue de défendre les droits des femmes, cette fois-ci à l'échelle européenne, consolidant son statut d'icône de l'engagement politique et social.
Ancienne secrétaire d'État à l'égalité des chances, députée fédérale et membre du parti politique écologiste, Sarah Schlitz est une voix forte dans la défense des droits humains et l'égalité des genres. Pendant son mandat, elle s'est distinguée par des actions audacieuses, notamment dans la lutte des violences faites aux femmes. Ces initiatives, qu'il s'agisse de renforcer les politiques de prévention ou de lancer des campagnes de sensibilisation marquantes, continuent de laisser une empreinte durable.
Déterminée à réduire les écarts professionnels, elle s'est aussi engagée pour une représentation plus équitable des femmes en politique. Son parcours est guidé par une vision claire, celle d'une société plus juste, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux. Un engagement qui inspire et fait réfléchir sur le chemin qu'il reste encore à parcourir.
Imaginez-vous sur la terrasse d'un café. C'est là que nous avons eu le plaisir de la rencontrer. Au fil de notre discussion, Elle nous a confié ses expériences marquantes, ses combats personnels et les réformes qu'elle a portées avec conviction. Elle partagera avec nous les défis qu'elle a affrontés et l'impact de ses actions sur la société belge.
À travers ses initiatives, elle nous expliquera comment elle œuvre pour une Belgique plus inclusive, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa culture ou son orientation sexuelle, peut se sentir respecté et soutenu. Sarah Schlitz débute en nous racontant d'où lui vient cette profonde envie de faire évoluer la société vers un avenir meilleur.
Moi, je viens d'une famille avec beaucoup de femmes fortes qui ont toujours travaillé, qui ont fait des études et qui étaient présentes dans des métiers masculins. Et donc ça, je crois que ça m'a forgé la conviction que pour une femme, rien n'était impossible. Je pense qu'en termes de rôle modèle, c'est très important.
Lors de notre échange, nous avons abordé le plan interfédéral contre le racisme, une stratégie coordonnée qui réunit les différents niveaux du gouvernement belge. Ce plan vise à rassembler les autorités fédérales, régionales et communautaires autour d'un objectif commun. C'est sous l'impulsion de Sarah Schlitz que ce plan tente de synchroniser les efforts des gouvernements afin de lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination au niveau national.
Cette dernière a d'ailleurs intégré l'idée d'intersectionnalité, un concept qui montre comment différentes discriminations, que ce soit en raison du genre ou des origines, se combinent et se renforcent. Elle a proposé des mesures pour soutenir les femmes issues de minorités souvent confrontées à une double discrimination. L'objectif est de créer une société plus juste en tenant compte de ces réalités.
Le plan d'action interfédérale contre le racisme, je pense que c'est le travail politique le plus compliqué que j'ai mené ces dernières années. Parce que, comme son nom l'indique, c'est un plan interfédéral et donc il faut travailler avec tous les gouvernements du pays. En sachant que ce sont des gouvernements qui sont asymétriques, donc ce n'est pas les mêmes partis face à de très nombreux blocages qui visaient en réalité à faire en sorte que ça n'aboutisse pas. C'était vraiment très décevant. Finalement, il n'a jamais abouti ce plan, alors que la Belgique s'est engagée en 2001, à Durban, a adopté un plan interfédéral. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté un plan fédéral alors contre le racisme.
Par ailleurs, Sarah Schlitz exprime son inquiétude face à un recul dans l'égalité homme-femme, notamment avec un écart de patrimoine qui continue de se creuser.
Ici, donc sur les 5 dernières années, on peut dire qu'on a bien avancé sur tout un tas de sujets sur lesquels on était quand même assez bien en retard. Moi, ce dont j'ai peur, c'est les reculs. Donc ça, je crois qu'il faut une grosse vigilance parce qu'on a toujours un peu le sentiment qu'on est sur une autoroute vers l'égalité et que ça avance. C'est peut-être pas toujours facile, ça va peut-être pas aussi vite qu'on veut, mais ça avance. Alors qu'en fait, il y a aussi des sujets sur lesquels on se rend compte qu'on recule. Par exemple, sur le sujet de l'écart du patrimoine, il s'accroît sur les dernières années. Et ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas il y a quelques temps. Et donc ça, c'est un des sujets sur lesquels il va falloir travailler.
Pour elle, il est essentiel de briser le plafond de verre en réduisant les écarts salariaux et en repensant les structures de travail, afin de garantir aux femmes les mêmes opportunités que les hommes.
Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le plafond de verre, qui reste encore super présent, notamment sur la possibilité d'adapter ses horaires, sur la façon dont on organise le travail, de telle sorte que ce soit compatible avec la vie privée, parce qu'on sait que les femmes continuent à assumer une grosse charge des enfants et du travail domestique. Alors évidemment, c'est un problème, mais c'est le fou la poule. Si on ne permet pas une bonne compatibilité entre vie privée et vie professionnelle, alors on se prive de toute une série de femmes qui ne pourront pas occuper une place importante. Et on voit bien qu'il y a des effets d'avancée et de recul. Récemment, j'ai été interpellée par un fonctionnaire qui me dit « on vient de recevoir une directive OSPF Finance pour resserrer super fort le droit au télétravail. » Donc en fait, avant, ils pouvaient organiser leur travail comme ils voulaient sur toute l'année, tant qu'ils prestaient, je crois, 3 jours semaine au bureau. Ici, ils ont reçu une directive, sans aucune concertation avec les syndicats, qui leur impose par semaine. Et donc ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont, par exemple, des parents qui ont les enfants en alternance, qui, en fait, s'arrangeaient une semaine sur deux, et ici, du coup, on empêche ces personnes-là de trouver un équilibre, quoi.
Au départ, elle croyait que l'égalité des droits était déjà une réalité. Mais son entrée en politique lui a fait réaliser l'ampleur des inégalités persistantes et tout le travail qu'il reste à faire pour parvenir à une véritable égalité entre les genres.
Moi, j'ai le sentiment de m'être vraiment affirmée en tant que féministe en entrant en politique. Donc, en gros, évidemment, je trouvais que la lutte pour l'égalité homme-femme, c'était quelque chose d'important, mais je ne me sentais pas, au départ, vraiment concernée par le sujet. En parallèle, donc moi, vraiment, sur les questions d'égalité, il est venu avec mon arrivée au Parlement fédéral. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée au Parlement fédéral, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un vrai lieu pour parler des questions d'égalité. Et donc, je me suis dit, ok, c'est parti, moi, je vais m'occuper, enfin, travailler sur l'égalité homme-femme, mais en allant dans toutes les commissions, quoi. Et donc, j'allais en commission justice parler de la féminisation des métiers, mais aussi du traitement des violences devant les cours des tribunaux. En intérieur, parler évidemment des violences, en affaires sociales, sur les inégalités salariales.
À la fin de cette rencontre, Sarah Schlitz a tenu à insister sur l'importance de rester solidaire et unie entre femmes, soulignant que c'est encore ensemble que nous serons les plus fortes pour continuer à faire avancer nos droits.
La plus grande force des femmes, c'est d'être ensemble, en fait. Plus on se renforce les unes les autres, plus on se soutient, et plus, en fait, on peut parvenir à renforcer nos droits et gagner des choses sur l'égalité.
Après cet échange riche en partage et en réflexion, nous avons réalisé qu'il n'est pas rare de croire, à tort, que les femmes n'ont plus de combat à mener, ou que l'essentiel a déjà été accompli. Mais Sarah Schlitz nous a rappelé que ce n'est absolument pas le cas et que la lutte doit se poursuivre.
Dans cet épisode, nous vous invitons à une discussion où chacune de nous mettra en lumière un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. L'objectif ? Montrer que, même demain, il sera essentiel de continuer à se mobiliser et à défendre ce qui compte vraiment.
Aélia, je t'invite à commencer.
En fait, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui me préoccupe énormément et qui fait beaucoup parler quand même en ce moment, qui est la proposition de loi en Irak visant à baisser l'âge légal du consentement à 9 ans.
J'avoue ne pas avoir l'impression qu'on en parle énormément dans les médias et pourtant c'est quand même un sujet qui est assez alarmant.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, aujourd'hui, l'âge de consentement en Irak est fixé à 18 ans, tandis qu'en Europe, chez nous, il est de 15 ans depuis 2021. Si cette loi venait à être adoptée, elle autoriserait non seulement la baisse de l'âge du consentement à 9 ans, mais aussi le mariage des jeunes filles à cet âge-là. En 2024, je trouve que c'est quand même une réalité difficile à concevoir.
Et du coup, je me demande d'où leur sort cette idée de baisser l'âge du consentement à ce point-là.
Alors, à la base, cette proposition est du coup liée à une révision des lois sur les affaires familiales et certains la défendent sous couvert de respect des traditions ou des pratiques religieuses. Mais pour beaucoup, y compris des organisations de défense des droits humains, ça représente une atteinte grave aux droits des enfants et des femmes. C'est non seulement une régression, mais aussi un signal très inquiétant pour l'avenir.
Ce qui est totalement compréhensible finalement. Et pour l'instant, elle en est où cette proposition ?
Alors aujourd'hui, c'est actuellement un projet de loi et ça n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il l'avait proposé. Auparavant, les partis conservateurs avaient tenté plusieurs fois de la faire passer, mais elle a toujours été bloquée grâce aux mobilisations et pressions locales et internationales. Mais voilà, encore une fois, le danger est bien réel, puisque ce genre de loi expose les filles à des risques graves comme les violences physiques et sexuelles qui ont un impact sur leur santé mentale, sans parler des freins pour accéder à l'école ou bien même tout simplement à l'emploi. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils veulent aussi interdire aux femmes de divorcer, de leur retirer la garde des enfants après une séparation, et de les exclure tout simplement du droit à l'héritage.
En fait, je me dis qu'on vit tellement loin de ces réalités-là que c'est difficile à concevoir et même choquant de se dire que des sociétés comme celle-là existent encore à l'heure actuelle.
Mais je me suis fait la même réflexion, mais en fait, elle reflète une interprétation qui est biaisée de la loi islamique utilisée au détriment des femmes. Et pourtant, l'Irak a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Je trouve que ce contraste est hyper choquant. Et toi, de ton côté, Céline, tu as choisi de parler de quel sujet ?
Pour le coup, moi, j'ai choisi de me tourner vers les États-Unis et le retour en arrière, plus que choquant, qu'on se le dise, sur le droit à l'avortement. C'était un droit qui était protégé depuis 1973, mais en 2022, la situation a totalement basculé, puisque les politiques ont décidé de redonner aux différents États le pouvoir de restreindre l'accès à l'avortement à leur guise.
Mais attends, il existe quand même des exceptions, comme en cas de viol ou d'inceste. On sait qu'aux États-Unis, les cas n'en sont pas rares.
Alors non, il faut savoir qu'après ce renversement, une dizaine d'États ont totalement interdit l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, peu importe la situation de la personne. Donc au-delà du choc psychologique lors de l'agression, on laisse ces femmes livrées à elles-mêmes porter le bébé de leurs agresseurs. Ce qui me choque quand même, c'est que cette décision a été prise par des hommes.
Mais j'allais le dire déjà que la décision en elle-même fait réagir. Mais en plus, ce sont des hommes qui choisissent pour les femmes.
Exactement. Et d'ailleurs, à la suite de ça, on a vu ressortir plus que jamais le slogan « My body, my choice », qui veut dire « mon corps, mon choix ». Donc encore une fois, ça me fait penser à Sarah Schlitz qui nous disait justement que les droits ne sont jamais gelés et qu'il restera toujours du travail à faire puisqu'on observe quand même pas mal de reculés sur ces dernières années.
Donc en effet, le travail n'est jamais terminé, mais tous ensemble, je suis certaine qu'on y arrivera. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si une chose est certaine, c'est que des femmes du monde entier ont marqué l'histoire et continuent de le faire chaque jour. Il est temps de s'engager et de défendre les inégalités. D'ailleurs, l'AELA l'a très bien compris, puisqu'ils ont adopté, en février dernier, le plan d'égalité des chances.
Et c'est Camille Provost, professeure au sein de l'école, qui se charge de ce projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de l'AELA et de lui partager vos idées, vos craintes ou même vos questions à l'adresse genre@ela.be.
Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir les prochaines histoires de femmes plus inspirantes chacune. Ensemble, faisons résonner leur voix.
Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et vos retours. C'est grâce à vous que nous continuons à faire bouger les choses un peu plus et à mettre en avant des histoires qui comptent.
La semaine prochaine, nous vous préparons un épisode spécial sur les femmes dans la science. Venez découvrir des portraits de pionnières, de l'astronomie à la biologie.
Et à très vite dans Inspiration au féminin.